question 2. Paragraphe 2, les apologistes latins. Grand A, les apologistes proprement dit. Et on est dans le petit C, les œuvres de Tertullien.
Ah oui.
Donc, on fait un saut de 18 siècles. Alors, c'est amusant parce que quand même, il est l'auteur d'un opuscule qui s'appelle « De spectaculis », qui est justement sur le showbiz de l'époque. Hein.
Ah oui.
Mais on ne va pas étudier ça. Hein. On va voir le... Enfin, le showbiz de l'époque, ce sont les combats de gladiateurs. C'est...
Oui. C'est quand même un peu chaud.
Oui, c'est un peu chaud. Ouais. Enfin, ceux qui ont vu le film Gladiateur, justement, à un moment, ça se passe en Afrique du Nord. Il y a une, voilà. Et ben, en fait, c'est un peu ça. Vous connaissez ce qui est arrivé à Saint-Augustin, hein?
Non.
Ah bon? Eh bien, alors, Saint-Augustin raconte dans les Confessions qu'il connaissait un ami. Et il avait un garçon qui avait un ami qui était un païen et qui allait beaucoup au jeu, et l'autre était chrétien, et il disait « mais jeu, c'est très mal », etc., etc. Et puis, il faisait un peu le fanfaron en disant « ça me dégoûtera ». Donc l'autre l'emmène quand même, et puis, en fait, il est tombé sous le charme des jeux, et des jeux de l'époque, hein, qui sont violents. Hein. Et en fait, il avait fallu des années et des années pour qu'il renonce à l'attrait des jeux. Mmh. En Afrique du Nord, en fait.
Pourquoi il a renoncé à ça? C'est débile.
Non, mais les jeux, c'était les
gladiateurs. Jeux, c'était comme...
Les gladiateurs.
Enfin, les gladiateurs. Mis à mort, moi.
Mais si. Mais c'est... Voilà, la violence. La violence, et puis comme la...
C'est pas un taureau, hein. C'est un être humain qui est mis à mort.
Non, mais attends, il faut voir le prix de la vie à l'époque.
Oui, 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 quand même, quand même. Justement, pour les chrétiens, ça n'était pas.
Et puis,
et puis aussi le goût du sang, quoi, qu'il a. Voilà. Donc il a fallu. Il a mis des années à se libérer de cette emprise.
C'est l'odeur du sang. Il paraît que ça.
Oui, c'est possible.
Il paraît.
Alors.
Personnellement, ça me dégoûte.
Donc, dans les œuvres apologétiques de Tertullien, pardon, on en a deux essentiellement qui sont le Ad Nationes, donc adressé aux païens, et l'Apologeticum, deux œuvres qui datent de la fin du IIe siècle, donc on peut même dire, on peut les dater de l'année 197. Alors, dans l'opuscule... Alors, justement, dans le livre de Salamitos, Arigny et compagnie, là, de la Pléiade, vous n'avez pas, dans les premiers écrits chrétiens, vous avez l'apologétique, mais vous n'avez pas d'autres œuvres de Tertullien, évidemment, parce que, vous voyez, maintenant, on commence à passer d'œuvres qui font trois pages, parce qu'on n'a que des fragments, c'était des choses très réduites, à des auteurs qui remplissent des volumes entiers de mignes. Hein, donc, on ne peut pas tout mettre. Bon, alors, l'Ad Nationes, il n'y est pas. Mais, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va s'en prendre à la persécution des chrétiens, encore une fois, qui est fondée sur le simple fait de l'être. C'est-à-dire le fait d'être chrétien. Autrement dit, là... persécution sur la base du nomen christianum, du fait d'être chrétien, sans qu'on condamne pour une autre raison que le fait d'être chrétien. Alors, il commence par, critiquer cette position en disant qu'elle est absurde, qu'elle n'est pas fondée en droit, etc. etc. Puis il va réfuter les accusations fondées sur la rumeur populaire, montrant que de ce point de vue-là, les païens sont bien pires que ce qu'on reproche aux chrétiens. Vous savez, c'est toujours les trois choses qu'on reproche aux chrétiens. C'est l'accusation d'inceste. Pourquoi? Parce qu'ils se réunissaient la nuit. Voilà. L'accusation de cannibalisme, d'anthropophagie, parce qu'il mange le corps du Christ. Et puis, l'accusation...
D'athéisme.
Voilà. D'athéisme, parce qu'il refusait de sacrifier aux divinités officielles. Donc, vous voyez, les six premiers chapitres, entre guillemets, c'est... la réfutation de l'accusation sur la base du nomen Christianum, et ensuite des chapitres 7 à 20 du livre 1, la réfutation des trois accusations qui sont globalement les rumeurs populaires auxquelles souvent les juges ne croient pas. Et puis le livre 2 de cet ouvrage attaque les divinités païennes pour dire globalement que ce sont des néants et que si c'est là-dessus que Rome assoit sa puissance, eh bien, elle ne va pas tarder à tomber. Voilà. Donc, alors évidemment, tout ça, c'est très fondé parce que Tertullien a une très très bonne connaissance en tant que rhéteur. Il a une excellente connaissance de toutes les mythologies latines et alors il montre aisément comment tous ces dieux sont pervers, enfin, nous sommes que la projection des perversions de l'humain et qu'elle pousse même du coup par ricochet les gens à les imiter et donc à devenir des citoyens moins utiles à l'État que les chrétiens qui recherchent la vertu. Voilà. Donc ça, c'est l'ad nationes, et on peut dire que l'apologeticum, c'est à peu près la même chose. Il s'adresse là au proconsul de Carthage, donc Carthage qui est la grande ville de l'Afrique du Nord, et ça se déploie sur 50 chapitres. Alors encore une fois, quand je vous dis un chapitre, hein, c'est deux pages, hein, même pas une page. Et là aussi, il dit que les persécutions contre les chrétiens... Ah zut. Les chrétiens sont injustifiés et que les païens se rendent coupables de crimes beaucoup plus graves et qui sont très mal fondés à dénoncer les chrétiens. Ensuite, les 9 premiers chapitres. Ensuite, dans les chapitres 10 à 27, il va montrer que les chrétiens ne sont pas des athées. Et bien, au contraire, qu'ils sont pieux, puisqu'ils refusent de sacrifier à des faux dieux. Et là, il va dire, ben voilà, nous, on connaît le vrai Dieu par révélation. Notre révélation, elle se fonde sur le judaïsme, d'un Dieu qui a fait ses preuves, et puis qui est mort et ressuscité, etc. Et donc, on sait que les autres dieux ne sont pas des vrais dieux, et donc c'est impie de sacrifier aux faux dieux. Et que nous sommes finalement les seuls à ne pas être athées, en quelque sorte. Donc, il renverse l'accusation d'athéisme. Alors, après, il continue, dans les chapitres suivants, jusqu'au chapitre 45. Les chrétiens ne sont pas nuisibles à l'État. Au contraire, ils prient le vrai Dieu, à la différence des païens. Ils sont loyaux. Ils sont utiles pour leur vertu. Et... finalement, le christianisme s'enracinant dans le judaïsme, eh bien, il est plus ancien que tous les mythes gréco-romains. Et ça se termine par, vous savez, la fameuse, ce qu'on cite toujours, mais je le citais comme ça, vous le saurez, vous saurez d'où ça vient, c'est la péroraison finale, chapitre 50, défi aux magistrats persécuteurs. Alors, vous ne l'avez pas sur les feuilles que je vous ai données. Alors, après avoir donc, pendant des pages et des pages, réfuté les accusations, et puis, alors à la fin, pendant deux, trois pages, il va reprendre les exemplats, typiquement latins. Par exemple, Mucius, vous savez, celui qui met... Mucius Scaevola, qui s'est brûlé la main parce qu'il a raté Porsena, alors il n'a pas réussi à le tuer. Le roi étrusque. Alors, il punit sa main qui a raté le roi, donc en le mettant sur un brasier.
Oh. Voilà.
Ah ben ça, c'est monsieur, c'est voilà. Et puis alors Régulus, vous savez le consul qui est vaincu par les Puniques là, par les Carthaginois, et qui aurait pu être libéré, mais il fallait que à ce moment,
donc il le libère.
Oui, voilà, il a préféré
rester. Il retourne à Rome.
Il revient.
Il revient
se constituer prisonnier.
Il se fait torturer.
Et etc. Et plein d'autres. Alors il dit à tout cela, vous élevez des statues, alors qu'ils ont servi. Et bien sûr, ils ont servi l'État, etc. Mais nous, on sert le vrai Dieu, donc le roi des rois, et vous nous jetez dans l'arène où vous nous brûlez, où vous, etc., etc. Donc, il dit que évidemment, c'est un envolé rhétorique. Et alors, à la fin, il dit ceci. « Mais continuez, magistrats appliqués, vous qui passez pour bien meilleur auprès du peuple, si vous leur immolez des chrétiens. Malmenez-nous, torturez-nous, condamnez-nous, broyez-nous. Votre injustice est la preuve de notre innocence. Voilà pourquoi Dieu souffre que nous souffrions ces épreuves. » Car encore récemment... Oui, parce qu'une des questions, c'était... Après tout, si votre Dieu est bon et puissant, pourquoi il vous laisse entre nos mains ? Donc voilà pourquoi Dieu souffre que nous souffrions ces épreuves. Car encore récemment, en condamnant une chrétienne au proxénète plutôt qu'au lion, vous avez reconnu que la perte de la vertu est pour nous plus atroce que toute espèce de peine, que toute espèce de mort. Mais vos cruautés les plus raffinées ne servent à rien. Elles sont plutôt un attrait pour notre communauté. Nous devenons même plus nombreux chaque fois que vous nous fauchez. Le sang des chrétiens est une semence. Voilà, vous l'avez entendu. Beaucoup parmi vous exhortent à supporter la douleur et la mort comme Cicéron dans les Tusculanes, Sénèque dans les choses fortuites, Diogène, Pyrrhon, etc., etc. Et pourtant, leurs paroles ne trouvent pas autant de disciples que les chrétiens ne le font en enseignant par leurs actes. Cet entêtement même que vous nous reprochez est en réalité éducatif. Car qui n'est pas secoué devant ce spectacle au point de rechercher ce qu'il y a en profondeur ? Qui l'a cherché sans nous rejoindre ? Qui nous a rejoints sans vouloir souffrir pour acheter toute la grâce de Dieu, pour se ménager tout son pardon en échange de son sang ? Car toutes les fautes sont remises grâce à cette conduite. Voilà pourquoi nous vous remercions au moment même de vos sentences. Telle est la rivalité entre les réalités divines et humaines. Lorsque vous nous condamnez, Dieu nous absout. Et alors, vous allez me dire, c'est un Africain, il se laisse emporter par un Méditerranéen. Eh bien non, parce que justement, on a les actes des martyrs de Lyon et de Vienne qui montrent que précisément au moment où on a jeté Potin, Blandine, le petit jeune de 15 ans, là, Saturu, je crois, etc., eh bien... Il y a des gens qui étaient dans l'assemblée, et ben qui, alors des chrétiens un peu tremblants, et ben qui à ce moment-là se sont manifestés et qui ont été, qui ont rejoint les condamnés, et certains qui étaient des païens, et ben qui se sont fait ensuite baptiser. Donc autrement dit, ce que dit Tertullien, c'est réel en fait, parce qu'on a les actes de martyrs qui nous montrent, je ne dirais pas que tous les actes de martyrs ou tous les romans entre guillemets de passion soient parfaitement vrais, mais on a des actes qui sont authentiques et qui montrent bien cette logique. Donc ce que Tertullien met aussi en lumière, c'est le rôle positif des chrétiens dans l'État et la supériorité de l'unique vrai Dieu et de sa religion sur, justement, les autres philosophies. Hein, comme il disait, vos Sénèques et vos Cicérons n'ont pas de disciples. Tandis que, on parle peut-être moins bien, mais on est plus fidèles à nos principes, et c'est ça qui fait venir qui convertit les gens. Et en fait, cet Apologeticum sera l'œuvre la plus copiée, transcrite de Tertullien. Je crois qu'on en a eu jusqu'à 50 exemplaires. ce qui à l'époque est un gros tirage. C'est un gros tirage.
Mais ça circulait, je suppose.
Oui, 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 ça circulait. Oui.
Ah oui. Ça
oui, c'est... Vous imaginez, il y en a quand même pas mal de pages là, donc il faut tout recopier sur des... Et alors, l'autre ouvrage que je voulais vous présenter, c'est qui n'est pas non plus dans cet ouvrage de la Pléiade, c'est le De Prescriptione Hereticorum, dont je vous ai déjà dit un mot. Alors là, donc, Tertullien transpose la notion juridique ou judiciaire même de prescriptio pro reo, hein, pour les coupables, à la dispute avec les hérétiques. Donc là, on est dans plus vraiment dans l'apologétique, mais on est dans la théologie. Hein, c'est-à-dire, il y a des chrétiens qui disent des choses fausses, et puis il y a les chrétiens qui défendent l'orthodoxie, et les deux discutent. Alors, comme dit Tertullien, il ne faut pas se laisser entraîner par les hérétiques dans une discussion sur le contenu, parce que toute discussion avec eux devrait reposer sur l'Écriture et sur la tradition de l'Église, qui sont les principes de la théologie, les prémices communes entre chrétiens. Mais les hérétiques ne peuvent se réclamer ni de l'Écriture, ni de la tradition, puisqu'ils falsifient l'Écriture et ne se situent pas dans la tradition de l'Église. Hein, c'est...
Mais quand l'hérétique est évêque, Arius, il était évêque?
Non, il était juste, juste prêtre, mais il falsifie l'Écriture, par exemple, en faisant un choix partial dans, par exemple, tous les passages qui diront que le Christ est second par rapport, enfin second, disons, par exemple, ne connaît pas ce que veut faire le Père, ou etc., etc. Et donc, à ce moment-là, ils vont présenter... comme aérésie, hein, c'est faire un choix. Ils ont fait un choix, et du coup, tout choix, une certaine falsification, parce qu'on ne présente pas la totalité. Alors, c'est souvent choisir la chose la plus, disons, une solution de facilité, parce que c'est souvent plus difficile de tenir un paradoxe sans avoir la résolution immédiate, plutôt de se dire, on prend ce qui nous paraît le plus logique. Et souvent, c'est par excès de logique que les hérésies se produisent. Et alors, évidemment, ils forment des sectes qui vont organiser, qui vont se créer une sorte de principe herméneutique de lecture de l'Écriture, et c'est en cela qu'ils la falsifient. Et alors, on pourrait dire que Tertullien pratique la question préjudicielle, en quelque sorte, hein, en disant « on ne jugera pas sur le fond tant que le plaignant n'est pas, tant que le plaignant ne peut pas être, n'est pas acceptable sur la forme. Or, il n'est pas acceptable sur la forme puisqu'il ne s'appuie pas sur l'Écriture, il vole l'Écriture d'une certaine manière, la falsifie. » Et il refuse la tradition de l'Église, voire se crée sa propre hiérarchie parallèle. Voilà. Et c'est là que Tertullien leur dit, vous n'avez pas le droit de nous opposer l'Écriture, puisque vous avez une Écriture falsifiée. Vous n'avez pas le droit de nous opposer l'autorité de vos évêques, de votre hiérarchie, puisque vous ne pouvez pas la faire remonter aux apôtres. Et donc c'est sa position, donc une position juridique classique des juristes romains qui va appliquer à la question théologique. On va lire des passages, c'est intéressant. Alors, tout d'abord, il se pose la question de savoir pourquoi il y a des hérésies. Alors justement, je vous ai un peu donné la réponse, hein, c'est parce qu'on cherche à mettre la main sur le mystère. Et quand il y a des choses un peu compliquées, eh bien on évacue ce qui ne rentrerait pas dans notre raison.
Rationaliser le mystère.
On rationalise le mystère, oui. Et puis, En quoi consiste-t-elle? Alors, il va développer un certain nombre d'hérésies, un peu comme par exemple le feront. Vous savez, on a des hérésiarques. Oui, alors il y a des hérésiarques, mais on pourrait dire il y a des hérésiographes, je ne sais pas quoi, qui vont citer les hérésies, les publier, et puis y répondre. Par exemple, saint Irénée, dans son grand livre Contre les hérésies, tout à fait intéressant. Épiphane de Salamine, qui était une sorte de. Comment on appelle ça? Les gens qui piquent les papillons dans une boîte là. Oui, un entomologiste des hérésies, oui, c'est ça. Donc il repérait toutes les hérésies, il partait à la chasse aux hérésies, comme avec un filet à papillons. Alors. Tertullien, il n'est pas saint puisqu'il a fini mal. Hein, bon, il dit que le Christ a annoncé les hérésies. C'est dans Matthieu 7, 15 par exemple. Et elles naissent, dit-il en s'appuyant sur saint Paul aux Colossiens 2:8, elles naissent de la philosophie. De la philosophie, toutes ces fables, comme dit saint Paul, sans queue ni tête. Parce que derrière la philosophie, il y a la mythologie, etc. Et il dit que le diable déforme la vérité. Et pour finir, donc, que les hérétiques ne peuvent représenter la véritable Église à cause de leur choix subjectif dans le donné de la tradition et de l'écriture. Alors, on va lire quelques passages justement du déprescriptionné. Alors, on retrouve toujours la boussole de ces premiers auteurs chrétiens à partir de du symbole des baptismales. On sortit la règle de foi, qui est la règle. Vous savez, règle, c'est ce qui mesure, ce qui mesure notre foi. Alors, Tertullien nous donne sa Regula Fidei, au numéro 13. Ni la règle de foi est celle qui consiste à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui n'est autre que le Créateur,